folle-mort. Nous voilà.
Bonjour à tous, pas d'affolement nous voilà et en direct de la foire de l'Aréole. Nous sommes avec Valérie, Philippe, Alain, Eric et moi-même Jean-Louis. Exceptionnellement aujourd'hui, n'oubliez pas que nous avons un cadeau à vous faire gagner en partenariat avec Téléshopping de Téléfun. Le tirage au sort aura lieu pendant l'émission. Et comme d'habitude, nous avons un invité. Cet invité est M. Raymond Vallier, adjoint au maire et spécialiste de l'historique de l'Aréole. Et la première question est, quel âge a cette foire ?
Ben, cette foire a plus de 1000 ans. Bonjour d'abord.
Bonjour.
Et merci de m'avoir invité. Oui, cette foire a plus de 1000 ans puisqu'elle est mentionnée dans la charte de création de la ville de l'Aréole, donc qui date de 977. À l'époque, c'est l'évêque de Bazas, l'évêque Gombeau, qui a créé le prieuré en lui donnant le nom de prieuré Saint-Pierre de Régula, Régula étant la règle bénédictine que les moines devaient suivre. Et dans la charte, il est précisé que déjà tous les samedis matins devra se tenir un marché entre les deux ruisseaux qui sont de part et d'autre de la ville, le Pimpin et le Charros, et pour le jour de la Toussaint, eh bien, on aura le droit de vendre des outils, donc des outils agricoles essentiellement autrefois. Donc une fois par an, on aura le droit de vendre des outils dans cet espace qui est aujourd'hui constitué par les quais de la Garonne. Voilà, donc ça c'est vraiment une foire qui a plus de 1000 ans aujourd'hui.
Et c'est pour ça qu'elle a lieu à la Toussaint alors ?
Alors elle a lieu à la Toussaint vraisemblablement parce que autrefois on vendait les récoltes pour la Saint-Michel, à la Saint-Michel, qui est au milieu du mois d'octobre, en général, se faisaient les transactions. On avait de l'argent pour acheter, par exemple, des outils pour l'année suivante, etc. Et donc, c'est peut-être pour cette raison que cette foire agricole a été mentionnée et indiquée pour le jour de la Toussaint.
Combien de personnes tirent cette foire sur les 4 jours ?
Eh bien, en fonction du temps, hein, en fonction de la météo, on est entre 30 et 40 000 personnes.
Toujours confondus ? Tous les jours confondus ?
Ah oui, oui, en général sur 4 jours.
Oui.
Ça se passe sur 3 ou 4 jours, ça dépend à quel endroit se trouve placé le 1er novembre.
Et quelles sont les retombées économiques alors, de cette foire ?
Je pense qu'elles sont importantes. En particulier pour les commerçants réolais qui participent à la foire, puisque bon, on connaît leurs enseignes depuis de très nombreuses années, ils sont toujours là, ça veut dire que ça fonctionne et que oui. ça rapporte, oui.
C'est la deuxième foire de Gironde, je crois.
Hein. Après Bordeaux, oui.
Après Bordeaux.
Oui, oui, bien sûr, après Bordeaux.
Comment était la foire au début ? Y a-t-il eu une évolution ?
Ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, au départ, il est mentionné une vente d'outils agricoles. Tout à fait au début, il y a 1000 ans, et petit à petit, ça a évolué. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais gamin, ici, d'avoir vu même peut-être encore plus d'exposants qu'aujourd'hui sur les quais, puisque Depuis quelques années, on ne voit plus de matériel agricole, alors qu'avant, il y avait des tracteurs, il y avait tout un tas de marchands de machines agricoles. Alors, est-ce que c'est lié, et c'est certainement lié à l'évolution de l'agriculture dans notre région, hein, on a peut-être plus besoin des mêmes outils, ou moins besoin des outils, des gros tracteurs, etc., qu'autrefois. Il y avait aussi beaucoup plus de marchands qui vendaient des voitures, par exemple. Parce qu'on avait plusieurs garages à La Réole. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'un. Donc, il y avait presque toutes les marques de voitures de l'époque. Peugeot, Citroën, Simca.
Oui.
Voilà.
Alors, est-ce que cette foire est multigénérationnelle ? Je crois que oui. Hein.
Oui, ben, écoutez, voilà. C'est le principe, je crois, qui fait aussi le succès de cette foire. C'est que c'est aussi la foire pour les enfants.
Oui, c'est ce qu'on voit.
Voilà. C'est la foire au plaisir. Et en plus de ça, c'est une des rares foires où l'entrée est totalement gratuite.
Oui, oui, c'est appréciable aussi.
C'est ce qui fait certainement son succès aussi.
Est-ce que la foire grandit ?
Eh bien, je ne peux pas dire qu'elle grandit. Ce que l'on peut voir au niveau de la foire la foire au plaisir, la foire des enfants, c'est chaque année des manèges de plus en plus formidables, de plus en plus impressionnants. Hein. Je crois que ça, les jeunes, ils le savent et ils viennent en nombre se faire un peu peur parce qu'il faut avoir les nerfs solides pour monter sur certains manèges.
Le cœur aussi.
Le cœur aussi, oui, bien accroché.
Quel est l'impact économique sur l'hôtellerie aux alentours ?
Alors, sur l'hôtellerie, écoutez, au niveau hôtellerie, ici, on a surtout des chambres d'hôtes. Et donc, là, maintenant, je ne pourrais pas dire... En dehors peut-être des forains qui ont besoin de se loger quelquefois, hein, qui occupent nos chambres d'hôtes. Mais on n'a pas d'hôtel ici à La Réole, vraiment directement à La Réole. Il y en a à Marmande, il y en a à Langon. Est-ce qu'ils bénéficient d'un effet de la foire ? Ça, je ne pourrais pas le dire.
Manon, je vous remercie.
Merci.
Merci à vous.
Je voudrais vous lire un texte de Claude Barzotti. Pour dire que je t'aime. Comme la vague avec la mer, comme la neige avec l'hiver, comme le vent sur la plaine, courber les blés et jouir aux fontaines, dans l'or et dans l'horreur des villes, le corps noyé et le cœur tranquille, je vais comme un navire ouvert. Chercher l'abîme de la lumière, je t'aime. J'ai les yeux perdus dans ma tête, je n'y vois plus que ton visage, comme une idée fixe et secrète, comme un film à la même image, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Dans la foule où tout fait silence, où mon sang se bat que de ton absence, je vois les rues comme des décors, les passants comme des oiseaux morts, il y a des néons comme des soleils, des filles affichées au trottoir, et toi mon démon, ma merveille, ma fille fleur, mon ange noir, je t'aime. Je te dis, je te dire le désir, la tendresse, avec des mots comme des caresses, avec des mots comme du velours, te faire comme un manteau d'amour, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et dans la solitude nue de cette chambre bien trop vide, qui résonne encore de tes rires, où tes rires ne chantent plus, où es-tu ma lointaine étoile ? Quels sont tes étés, tes cigales ? Quels sont tes rêves et d'aujourd'hui et les lumières de tes nuits ? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je dédicace ce texte à ma fille pour une bonne fin d'année. Voilà.
Avec la mer, comme la neige avec l'hiver, comme le vent va sur la plaine, courber les blés, jouir aux fontaines, dans l'or et dans l'horreur des villes, le corps noyé, le cœur tranquille, je vais comme un navire ouvert, chercher l'abîme et la lumière, je t'aime. J'ai les yeux perdus dans ma tête, je n'y vois plus que ton. visage, comme une idée fixée secrète, comme un film à la même image. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
Eh bien oui, après ces mots doux, un autre texte de Christine qui va nous parler de son adolescence.
Bonjour, je m'appelle Christine, je vais vous parler de mon adolescence. Tout d'abord au collège à Toulouse-Lautrec, à Langon, à mes 12 ans, j'étais déléguée de classe. Bisous à Madame Carlet, la chef, et à tous mes amis et mes copains. Au Homme de Mazère, après chaque repas, on allait jouer du djembé et on fumait des cigarettes. On jouait du Bob Marley, c'était la ouate. J'adorais prendre le bus en fin de journée car juste avant, je m'en grillais une bonne cigarette derrière la caserne des pompiers. C'était là que j'ai fumé ma première cigarette et je me suis étouffée. Et là, je peux vous dire que j'ai cru que j'allais mourir. Pendant 5-10 minutes, je toussais, j'arrivais plus à respirer, on n'avait pas d'eau, il faisait chaud. J'ai attendu 15 jours pour en fumer une autre. À 15 ans, je suis allée dans un lieu de vie, à Périgueux, ce qui faisait partie de la DSG de la Gironde. J'ai été placée à la DAS pour différentes raisons dans ma vie personnelle. Je souhaite tout le bonheur à cette association Les Bouijoux. Tous les jeunes, on a refait la maison à Périgueux. On cuisinait des rôtis de bœuf. C'était moi qui les faisais le mieux. C'était le paradis dans ma chambre. Dans mon patio, je m'occupais de mes plantes vertes avant de partir en cours ou en stage. J'ai fait un stage de boulangerie. J'adorais servir les clients, leur demander ce qu'ils voulaient, leur faire un petit sourire. Je m'attendais bien avec la patronne et ses petits. Je les aidais pour faire du dessin, de la lecture, de l'écriture et des jeux. J'étais comme leur grande sœur. J'ai aussi fait un stage de coiffure. Ils voulaient me garder, mais j'étais allergique à l'ammoniaque. Alors j'ai dû partir à cause de la cigarette. Satanée cigarette. Alors actuellement, je fume encore. J'ai fait un stage en charpente, couverture, zinguerie. On a refait un toit minable. On s'en est sorti en 2-3 jours. On a mis des fermettes dans un autre endroit où en un jour, c'était plié et le patron m'a payé le resto. Malheureusement, il partait à la retraite, donc il n'a pas pu me garder. Quel dommage.
Pas d'affolement. Nous voilà.
J'ai fait un autre stage en peinture, mais comme il faut calculer les superficies pour savoir combien il faut mettre de peinture et dans quelle surface, j'ai arrêté car j'étais mauvaise en maths. J'ai adoré travailler dans le bâtiment, mais j'ai changé de voie complètement. Juste avant de faire un BEP en hôtellerie, j'étais championne dans tout ce qui touche l'athlétisme. J'ai gagné une médaille d'argent, mais malheureusement, je l'ai perdue. Perdue dans le sens perdre la compétition, mais perdre dans le sens où je l'ai perdue égarée. Et je voudrais bien qu'on me la renouvelle. Ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup, monsieur l'entraîneur de Périgueux. En hôtellerie, je devrais le service en salle, parler avec les clients, ouvrir les bouteilles. Et donc, je me suis fait virer. Et là, vraiment, j'ai touché le fond. J'ai vraiment touché le fond. Ma vie d'ado, elle a été trop courte. J'ai réussi énormément de choses, mais malheureusement, je suis tombée malade. Pour en finir, j'embrasse toute ma famille et Fabrice. Fabricio! Je vous aime tous. Johnny, Philippe, maman, papa. Papa, paix à ton âme. Respire là où tu es. Bien, correctement. Je vous aime tous, vous savez, même le CHS de Cadillac, je les aime. Même si c'est pas ma place. Même si j'ai une nouvelle. J'ai été placé en foyer, c'est fini. Les crayonnés vont plus me voir. Plus jamais. Je leur fais d'énormes bisous et je leur dis adieu. À bientôt, au revoir.
Merci Christine pour ce témoignage. Maintenant, nous avons un texte de Nathalie qui va vous le lire. sur Charles Aznavour. Le titre, c'est « Emmenez-moi ».
Bonjour, je suis Nathalie. Vu l'actualité violente culturelle, je voulais vous parler maintenant de Charles Aznavour. Il a une carrière très longue, malgré les débuts difficiles. Et il s'est totalement engagé dans la cause arménienne, étant lui-même arménien.
Comment est-il devenu une star en France ?
Lentement, lentement. Les buts n'étaient pas du tout appréciés. La critique s'attaquait beaucoup sur sa voix. Il n'a connu la notoriété que quand il était mis à chanter « Je me souviens de rien ».
Pouvez-vous nous citer quelques chansons de Charles Aznavour ?
La Bohème, je pense. Il correspond à un mouvement de galère, justement. Je suis un beau comitiste, un engagement, parce qu'à l'époque, c'était très très mal vu, pour ne pas dire un délire.
Qu'avez-vous envie de retenir de Charles Aznavour ?
C'est un homme qui a participé des origines à un engagement politique. Il est donc maintenant un patrimoine culturel de l'intention collective mondiale. C'est sa renommée, en fin de carrière, sa renommée quand il disparaît.
Avez-vous une chanson que vous aimez le plus de parmi toutes ces chansons ?
Oh, c'est Emmenez-moi.
Je vous propose de l'écouter alors. Merci Nathalie.
Je vous en prie.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 la.
Pouvez-vous nous dire, monsieur?
Nous nous retrouvons à l'Aréole en direct pour la foire de l'Aréole avec Raymond Vallier, adjoint au maire et spécialiste de l'histoire de l'Aréole. Et nous avons un superbe cadeau qu'il ne faut pas oublier, un cadeau télé-shopping, une crêpière. À téléphoner. Non, prenez un papier et on fera un tirage au sort en cours d'émission. Mais à l'instant. Voilà. Et alors, je reviens donc à monsieur Raymond Vallier. On va parler de l'orgue.
Oui.
Oui, alors parlez-nous-en de cet orgue qui est dans 15 jours, je crois.
Alors d'abord, le côté historique de l'orgue est assez extraordinaire. C'est un orgue de très grande qualité qui a été construit au XVIIIe siècle, en 1765, qui a été commandé par les moines. Et il se trouve que cet orgue a été emmené à Bordeaux en 1803 parce que pendant la Révolution, la cathédrale de Bordeaux avait été totalement détruite en quelque sorte. Tout le matériel de la cathédrale avait été détruit et emporté. Il n'y avait plus d'orgue. Et donc l'archevêque de Bordeaux est venu se servir à l'Aréole en prenant notre orgue. Et cet orgue, ensuite, une fois qu'il a été à la cathédrale, il a fonctionné pendant une dizaine d'années, mais il s'est avéré trop pas assez puissant par rapport au volume de la cathédrale. Et donc il a été déplacé dans une église plus petite, l'église Sainte-Croix. Oui. Et là, il a fonctionné jusqu'en 1985. Donc il a passé plus de 200 ans à Bordeaux. Et là, il a été démonté parce qu'il était vraiment en très mauvais état. Et donc une association s'est créée, l'association des Amis de l'Orgue, à l'Aréole, pour faire revenir cet orgue ici à l'Aréole, pour le restaurer, ce qui a été fait en 2015. Et depuis, nous avons créé un festival qui va se dérouler le 16, 17 et 18 novembre prochain.
Et tous les ans, alors?
Comment?
Tous les ans.
Ah oui, maintenant, c'est la troisième année. Hein. Oui. C'est la troisième année. Et donc, nous allons faire venir de grands organistes. Hein. Comme par exemple, nous aurons le vendredi 16, ça sera un concert entre Stéphane Trébuchet et Jean-Laurent Coésy, oui. qui vont faire un concert orgue et chant. Donc Monsieur Coésy est un baryton, hein, donc ils vont faire ce concert. Le samedi, c'est un très grand organiste de Toulouse qui s'appelle Michel Bouvard et qui va venir jouer avec sa femme. Ils vont jouer à quatre mains sur l'orgue. Et le dimanche 18... là, c'est un phénomène particulier qui va se passer, puisque nous allons fêter, là, en quelque sorte, si vous voulez, l'armistice.
Novembre.
Voilà, on sera le 18, mais enfin, c'est par rapport à l'armistice du 11 novembre. Et là, c'est une histoire, là aussi, extraordinaire qui s'est produite, c'est-à-dire que dans les tranchées, en 18... il y avait un violoncelliste qui s'appelait Maurice Maréchal.
Ah oui.
Et qui n'avait pas d'instrument. Et il a deux amis qui étaient menuisiers dans la même tranchée que lui, qui lui ont construit un violoncelle avec des caisses de munitions, du bois de récupération qu'il y avait dans les tranchées. Heureusement pour lui, il n'a pas été tué. Et il a pu jouer sur cet instrument dans les tranchées, mais aussi auprès des généraux, etc., qui étaient à l'arrière. Hein, voilà.
Et pour donner du courage aussi.
Oui, peut-être. Et ce violoncelle, il l'a appelé le poilu, hein, comme les soldats qu'on nommait de cette façon à l'époque. Il se trouve que cet instrument est aujourd'hui à la Cité de la Musique à Paris. Il est conservé dans ce musée et on en a fait une copie. Et cette copie sera à l'Aréole le 18. À ne pas manquer, avec une des plus grandes violoncellistes du monde aujourd'hui, qui s'appelle Emmanuel Bertrand,
oui,
qui va jouer sur cet instrument et nous donner un concert. Et à l'issue de ce concert, il y aura une partie orgue avec Jean-Baptiste Dupont. Je dirais, pour ceux qui sont un petit peu au courant et qui connaissent Thierry Escache, il était prévu de faire venir Thierry Escache, mais il a un empêchement important.
Ah, oui.
Et donc nous avons demandé à Jean-Baptiste Dupont, qui est le titulaire de l'orgue de la cathédrale de Bordeaux, et qui va venir donner un concert. Et là, nous lui avons demandé de faire un concert extrêmement brillant. Et il va jouer en particulier une œuvre qui s'appelle « La marche héroïque » de César Franck. qui est une œuvre vraiment très brillante, de façon à terminer et à clôturer ce festival de 3 jours, vraiment de la manière la plus belle qui soit.
Merci. Merci pour ce...
Je tiens à préciser que l'entrée est gratuite pour les enfants jusqu'à 16 ans, et que de 16 à 25 ans, c'est 8 euros, et qu'au-delà, c'est 20 euros par concert. Voilà.
Eh bien, peut-être une question, Valérie. Une question ?
Non, j'ai entendu parler d'une anecdote, comme quoi il y avait un passage au gué à payer.
Alors, un passage à gué à la Réole, effectivement, c'est un des éléments qui a été presque fondateur de la ville. Ce passage à gué se trouve à 1 kilomètre en amont de la Réole. Il se trouve exactement sous le pont qui permet d'aller à l'autoroute, le pont nouveau qui permet de relier la ville à la sortie d'autoroute. Et ce passage à gué a été déterminant par rapport à la création de la ville. Pourquoi ? Parce que depuis le Moyen-Âge et jusqu'en 1820, c'est le seul passage de la Garonne depuis l'océan.
Ah oui, d'accord.
Et si je dis 1820, c'est parce que le premier pont entre l'océan et la Réole a été créé. Donc, c'est le pont de Pierre à Bordeaux.
Le Napoléon.
Le pont Napoléon, ce qu'on appelle le pont Napoléon. Et donc, jusque-là, eh bien, aucun passage, sinon, aucun pont, sinon des bateaux qui faisaient le passage, qui permettaient des passeurs, qui permettaient de traverser, mais qu'il fallait payer. C'est pour cette raison que le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, qui vient de Vézelay en Bourgogne et qui va donc en Espagne, passe par la Réole parce qu'il passait depuis le 8e siècle par ce passage à gué. C'est pour ça aussi donc qu'on a créé le monastère des Bénédictins pour venir en aide à ces gens. Il faut que vous imaginiez qu'ils arrivaient non seulement de Bourgogne, c'est-à-dire à peu près 400 km d'ici, mais de toute l'Europe du Nord.
Ah oui.
Et donc les moines ont construit ce monastère pour venir en aide, héberger, nourrir, soigner ces pèlerins qui avaient beaucoup marché, quelquefois pendant 1 ou 2 ans. C'est quand même très, très, très important. Voilà. Et c'est ce qui a fait la création de la ville. Et alors, deuxième chose, c'est que ce passage à gué, il a aussi permis aux armées qui descendaient du nord de la France et qui allaient vers le sud, vers les Pyrénées, vers l'Espagne, etc. C'était là aussi le premier point de passage le plus court, en quelque sorte, quand on arrivait du nord.
Ce que je voulais savoir, est-ce que la Réole a été choisie exprès pour passer le gué ?
Eh bien, du fait que les pèlerins passaient par ce passage à gué, et du fait que la ville est facile à défendre, elle est entourée d'eau, la Garonne au sud, et 2 ruisseaux de chaque côté de ce promontoire, de ce balcon sur la Garonne, hein, que nous voyons là depuis là. C'est devenu un point stratégique important. C'est-à-dire qu'il y a eu le côté religieux qui a fait que la ville s'est créée, comme je viens de vous l'expliquer, mais aussi le côté stratégique que les Anglais, en particulier pendant le Moyen-Âge et pendant la guerre de Cent Ans, ont su exploiter, puisqu'ils ont construit un château fort très important ici, à la Réole.
Merci.
Alors, je profite de vous faire travailler un peu.
Ah oui ?
De piocher, oui, de tirer au sort, la main la plus innocente.
J'en prends un.
Oui, un seul suffira. Voilà.
Alors, je vous laisse.
Alors, c'est un certain Guillaume de Cadillac au 05 56 60. Non, c'est une plaisanterie, je crois. On retire parce que c'est une plaisanterie de. Ah bon. Le gagnant est bon. C'était une plaisanterie. Voilà. Alors, je continue. Je profite de ces moments pour.
Non, mais il veut... Je profite de ce moment pour vous présenter le deuxième épisode de La vie du guette que nous avons rencontré à Créon. Elle vous parle de sa fabuleuse expérience de la vie.
Oui, bonjour. Aujourd'hui, Eric Falleret, la radio. Huguette, bonjour.
Bonjour. Alors, j'en étais restée au moment où mon père...
Antonin, votre papa, c'est ça ? Oui. Il a été blessé 3 fois pendant la Première Guerre mondiale.
Non, il a été blessé 1 fois par une balle de mitraillette qui lui a traversé l'épaule. Alors, je ne comprenais pas. Moi, je disais, comment ça se fait que cette balle, elle a pu te traverser l'épaule et aller se planter dans ta cuisse ? Eh bien... Il m'a dit parce que, justement, j'étais en train de m'aplatir par terre, parce qu'on nous faisait marcher. Il m'avait bien expliqué tout ça, moi, ça m'intéressait. Et il me disait, on nous faisait marcher, allez, levez-vous, courez 50 mètres et couchez-vous. Alors, il courait, il y avait un coup de sifflet ou je ne sais pas quoi, et hop, tout le monde se jetait par terre. Alors, si c'était de l'eau, si c'était de la boue, c'était comme ça.
C'était pareil.
Alors il me dit, j'étais en train, il y avait une tranchée, parce que si possible on se jetait dans une tranchée, on était plus abrités. Mais les tranchées, il y avait de l'eau au fond, et c'était pas marrant. Alors il me dit, je voulais me coucher par terre, et au moment où je me suis couché, où j'étais presque couché, la balle est arrivée presque très oblique, presque horizontale. Elle m'a traversé l'épaule ici en haut, mais sans trop me blesser, parce qu'en effet les cicatrices n'étaient pas importantes. Elle a traversé l'épaule et elle s'est plantée dans ma cuisse. Et j'ai pas pu me relever parce que je pouvais bouger ni le bras ni la jambe.
D'accord.
Alors après, on est venu me chercher, me mener à l'hôpital, etc. Voilà, alors il a été blessé comme ça. Alors, ça, on peut dire blessé deux fois, mais en fait, c'est la même blessure. Et après, on l'a soigné et trois mois après, on l'a renvoyé au front. Alors il est reparti, et là, il a été gazé. Et il s'est trouvé, il ne pouvait plus respirer, il s'étouffait, il ne pouvait plus bouger. Alors on l'a renvoyé à l'hôpital pour le soigner, pour le gaz. Ça, ça a été plus long, parce qu'il a été long avant de retrouver sa capacité respiratoire. Hein. Mais enfin, il n'était pas blessé par ailleurs. Alors ça fait deux fois, oui. Il a été blessé deux fois. Bon, puis alors, en plus, il n'a eu effet que la fin de la guerre. Parce qu'il avait, quand la guerre a éclaté en 1914, il n'avait que 16 ans. Alors, dès qu'il a eu, il a passé le bac, alors il a fait trois mois de service militaire, et c'est là qu'on l'a envoyé au front et qu'il a été blessé la première fois. Alors ça se passait en 1917. Oui, voilà. Alors, il faut dire qu'il était, quand il a quitté, il a été mobilisé, lui a fait faire le service militaire, il était au petit séminaire de Saint-Flour, dans le Cantal, parce que mes parents, du côté de mon père, sont auvergnats. Alors, il était dans ce petit séminaire, parce que ma grand-mère avait un rêve, c'est d'avoir un fils prêtre. Elle était très croyante et pratiquante, et elle voulait avoir un fils prêtre. Elle a eu 7 enfants, hein, quand même, dont 3 garçons, et elle s'est dit, dans les 3 garçons, il y en aura bien un, quand même, qui aura peut-être la vocation. Alors, les deux aînés, parce que lui était le plus jeune des garçons, les deux aînés, ça ne les intéressait pas, et le troisième, lui, les études, ça l'intéressait. Alors, elle l'a fait. Et alors, quand il a dû rentrer, comme moi, en pension, elle a dit, tu sais, j'ai envie de te mettre au petit séminaire parce que tu aimerais pas être prêtre plus tard. Oh, il n'était pas très emballé. Il était croyant quand même, mais enfin, pas pour être prêtre. Alors il lui a dit, mais écoute, si tu veux, parce que tu feras les mêmes études, mais en même temps, tu seras... Bon, alors il est rentré à ce petit séminaire de Saint-Flour, et c'est comme ça qu'on l'a présenté au baccalauréat, qu'il a passé, qu'il a été reçu. Bon, alors... À la suite de ça, comme il avait 18 ans, on l'a... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, quand je perds le fil. Oui, voilà. Alors, à ce moment-là, quand il a eu passé, fini les études, on l'a envoyé au front, il a bon, tout ça. Il est revenu. Quand la guerre a été finie, il est revenu.
Pas d'affolement. Nous voilà !
Rebonjour, nous sommes revenus... sur la foire de la Réole, et mais voilà, je n'étais pas encore au micro, donc j'ai appris tout à l'heure que j'avais gagné un magnifique lot, et oui, je suis le fameux Guillaume qui a gagné. Et alors je me suis téléporté à toute vitesse jusqu'ici, parce que mais voilà, ce cadeau, c'est pas que j'en veuille pas, mais je me dis pourquoi pas l'offrir à quelqu'un d'autre, et donc eh bien je le remets en jeu, et dans ce cas-là, voilà, il est remis en jeu. Je donne la parole d'ailleurs à Philippe qui va faire en sorte de le réattribuer avec l'invité, M. Vallier.
Mais je vais refaire travailler M. Vallier. Alors, c'est même pas Guillaume, là, c'est Sylviane, qui est de Cadillac également. Bravo Sylviane. Alors moi, j'ai parlé un peu de moi parce que je vais vous conter ma rencontre avec Miss Aquitaine. Nous sommes le 1er novembre 2015. invité par Francis à la foire de l'Aréole pour discuter en direct dans le stand REM. Je me présente dans ce dimanche ensoleillé où la foire, fort de ma notoriété nouvelle et d'un audimat record, je fais l'admiration de tous. Je me dirige vers le stand radio où j'aperçois Francis. Je dirige vers lui le salut. Il me dit « Il y a du nouveau ! Une personne de désire poser en photo avec toi. » Je lui rétorque « Qui est-ce ? » « C'est moi !» répond une voix timide. C'est alors qu'apparaît une super créature qui me sourit. À qui je réponds « J'ai un peu de temps devant moi. Allons-y !» Francis, toujours armé de son appareil photographique, immortalise notre rencontre. Heureuse, elle me donne son numéro de téléphone. Je verrai l'occasion si je la contacte. Pour résumer, l'avenir appartient à ceux qui entreprennent. C'est un peu humoristique, c'est un peu romancé. Mais... Antoine.
Oui, bonjour. Je vais faire une présentation d'un texte de rap que j'ai enregistré à l'hôpital de Cadillac. En effet divers, par moi, et bonne écoute. Ok, DR. Tu connais, faut de l'oseille, sur terre-terre, ça nique des mers. Tu captes, go fast, la gagne du haram. Une décapotable, fréquentation de bicrave. De l'argent sale jusqu'à très tard, c'est pas des blagues. Voilà l'étalage, ils le savent, à l'étage, le dosage. Qui nappe au camtar, des larmes. Tu planes grave, à fumer des grammes. La boucherie de sa gramme, la folie te pousse au mala. En boucan halal, tu vas pour cave comme un lâche déçu du boycottage. J'rappe pas mal, poto, j'ai la dalle. En général, j'fais des dollars, ça sonne père, faire de l'oseille. Ici, l'œil, tu nous jettes. J'reste moi-même là où j'traîne, c'est pas la fête. On te monte en l'air, et que si ça rabaisse, celui que t'appelles mon frère cherchera tout moyen pour te la mettre. La recherche sur cette terre. Eh, finir milliardaire. Jamais je compterai m'arrête de traite. Les CRS, la carrière de cet enfer. En effet divers, que tu t'y tiennes. Ça opère à la thèse. Pas un guerre qui a les enfumettes. En direct, Maghreb et Khal. Sur grand-père, t'es un faible. Au collège, un collage d'herbes. CRYZ sous le soleil, lourde caisse aux sorties du HEPS. C'est tout seul qu'on se démêle, face à soi-même. Souviens-toi d'où tu débarques. Et de nous tu mates, tu fais des écarts. Réel la cathédrale, j'espère ne pas te voir. Ancestral sont mes braves. Gaz, gaz, cabratra sur la roucade. La BAC nous regarde, je me sape, gère la frappe. En gros, en détail. Pour Afo Halas, rien ne sert de râle, faut du genre. Nick ta cam, ils reviennent plus, t'es en clair. Tu reconnais les histoires, un bal afro tiens, un chien qui voulait le butin, un qui jette son venin. Tu vois bien, ça part trop loin, malsain, nos vies sans rien, faut être malin. Oublie pas ton destin, que tu maintiens en main. Et fais pas le parrain, un vrai rouvin. Stupéfiant et coq, tourne en bas des blocs. Les rapports de conne, fini la picole. J'crois dommage que j'ai pas fait l'école. Sérieux, j'décolle, t'es un mi-tonne, mi-tonne des folles. Chaque nôtre, pour les nôtres, les vôtres. Comprends bien qu'il n'y a pas de chipote, pédale raccroche. C'est pas mes potes, ceux qui sont avec des remords. On connaît nos temps, ce soir chargé les glocks. Même au microphone, on m'en redemande. C'est ça gros vent de la mort. Au final ça frappe à la porte. 6 o'clock.
Ok, bon voilà, c'était mon enregistrement. J'espère que vous avez bien aimé. Et je vous envoie maintenant un slam de Guilin, personnage imaginaire.
C'est une rencontre avec un personnage imaginaire. Le personnage dont je veux vous parler a toujours existé, même s'il n'en a pas conscience. Il n'a pas d'âge. Du moins, on lui a inculqué qu'il a environ 40 ans. Même si pour lui, quel que soit l'âge qu'il ait, cela n'a pas d'importance. Pour lui, seule l'ampleur de son savoir a de la valeur. Peu lui importe d'avoir, car pour lui, ce n'est qu'une chose éphémère et sans portée véritable. En vérité, il ne suffit pas, ne serait-ce que l'ombre d'une seconde à l'image que son reflet dans le miroir lui renvoie. Il n'a qu'un leitmotiv, c'est de survivre, dans l'espace dans lequel sa silhouette se mouvoie. Si ça ne tenait qu'à lui, ce personnage ne se nourrirait pas, ne se laverait pas, ne boirait pas, tant de choses vitales pour le respect de soi et des autres. À son triste regret, il n'est pas si différent des autres. Il a copié sur d'autres mammifères, les êtres qui sont censés être ses congénères, leurs gestes et habitudes, quels que soient les milieux où elles évoluent, grandissent, se nourrissent. Il est dans sa bulle et a remarqué qu'il lui fallait prendre des précautions pour demeurer dans un certain équilibre, en adéquation avec la nature. Pardon. Il a remarqué que les journées se confondent avec les nuits, dans un inlassable ballet de répétition, pourtant lassant et long, mais qui était pourtant égal à quelques secondes. Rares sont les différences qui se prononcent chaque jour. Assemblées, celles-ci ne sont qu'un éternel recommencement. Beaucoup de personnages, voire une majorité de personnages traités par des historiens, des conteurs ou personnalités en général, se ressemblent tant leurs images se confondent. Tous les jours, mon personnage est le même, mais tous les jours, il porte de différents costumes. Voici ma rencontre avec ce personnage. Perdu dans la foule, aussi consistante soit-elle, j'ai remarqué un jeune homme. C'était en centre-ville, à Bordeaux, plus précisément dans la longue et agréable rue Sainte-Catherine. Cette dernière est censée être la plus grande d'Europe. Je me demande pourquoi lui, oui, cet homme d'apparence juvénile est dans mon champ de vision. Il est là, figé comme une statue. Il est là, mais pas ailleurs. En fait, tout s'est passé en une infime durée de temps. Immortalisé, c'est le cas de le dire, je savais que ce visage allait marquer mon existence. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si ce personnage était destiné à me rencontrer. Paradoxalement, son regard vint prendre un cliché de mon faciès. En un clé d'œil, ouvrant et fermant ses cils comme le zoom d'un appareil photographique. Une larme fut le résultat de la chimie entre nos deux êtres. Certes, il n'était pas le mieux habillé, mais sa différence et son aspect nonchalant et fier m'interpellèrent. Je revois cet éclair dans ses yeux, qui me défiait et m'obligea à aller lui parler malgré tout. Je n'oubliais pas le conseil de mes parents en me disant de ne pas parler aux inconnus et en outre de ne pas leur faire confiance. Mis à part sa tenue vestimentaire, je remarquais autre chose. Dans sa main gauche, il tenait un roman, « La chimiste » de Paulo Coelho, auteur brésilien largement controversé de par le monde et des critiques. Au moins, nous avions quelque chose en commun, la même lecture et qui plus est le même auteur. Je vous raconterai après ce qu'elle était le contenu de notre dialogue entre lui et moi. Il tient en une phrase. Moi, c'est lui, et lui, c'est moi. Autant dire, l'amour est la plus belle des alchimies. Je m'aime.
Et maintenant, nous sommes toujours à la Réole, à la foire. Merci à Guyliane pour ce texte. Le tirage au sort qui a été effectué tout à l'heure a été remis en jeu, et c'est Sylviane qui a gagné. Sylviane est d'ailleurs l'une de nos présentatrices qui vient de temps en temps. Actuellement, elle est absente, mais je pense qu'elle nous écoute. Je tiens à redire que nous sommes en présence de Raymond Vallier, adjoint au maire. Monsieur Vallier, d'où vient le nom de la Réole ?
Le nom de la Réole vient de la règle bénédictine. En fait, lorsque je vous ai dit tout à l'heure que la ville avait été créée par l'évêque de Bazas, il a donné comme nom au monastère, en fait, le nom de Saint-Pierre de Régula. Régula, c'est un mot latin qui veut dire la règle bénédictine, cette règle que les bénédictins, que les moines devaient suivre, voilà, tous les jours de leur vie. Hein.
Je peux vous interrompre ?
Oui.
Et... juste une question, bénédictin. C'est une définition précise ou c'est juste la catégorie d'ordre de...
Alors c'est l'ordre des moines qui suivaient la règle de Saint-Benoît. Bénédictin, oui, oui. Vient de Benoît.
Ah, c'est donc dans ce sens.
Voilà, vient de Benoît.
Je voulais savoir si c'était...
Voilà, et Régula est le nom primitif de la Réole, en fait, et qui s'est déformé petit à petit avec la langue gasconne. Régula est devenu Réula et la Réole.
Merci. Donc on parlait gascon alors.
Voilà, absolument, on parlait gascon, oui, oui.
Combien y a-t-il d'habitants à la Réole ?
Aujourd'hui, autour de 4400 habitants.
C'est classé ville ?
Oui, c'est une ville, oui.
Pas un village.
Non. Ah non, c'est pas un village, c'est un gros bourg.
Mais je connais pas très bien, j'ai juste vu la foire.
D'accord.
Est-ce que la population augmente lors des vacances ?
Ah ben écoutez, nous avons une fréquentation touristique intéressante et qui est en progression d'année en année, et particulièrement avec des cyclotouristes, puisque il y a un
développement. Le chemin de.
Alors, le chemin de Saint-Jacques, c'est une chose. On comptabilise à peu près 300 pèlerins qui passent au bureau de l'Office du tourisme pour nous demander des renseignements, en général. Mais il y en a beaucoup plus que ça qui passent. Il y en a qui ne passent pas chez nous, qui ne passent pas à l'Office. Mais voilà. Et pour ce qui est des cyclotouristes, ils viennent là aussi de toute l'Europe. Ils prennent la piste cyclable de Bordeaux jusqu'à Sauveterre de Guyenne. Et ensuite, de Sauveterre, ils viennent vers l'Aréole pour prendre le canal des deux mers, qui leur permet d'aller jusqu'à Sète, donc sur la Méditerranée, à bicyclette, depuis l'Aréole. Oui. Ça fait.
C'est un sacré pèlerinage.
Oui, ça, c'est un autre pèlerinage, mais sportif, celui-là.
Oui. Ce qui fait la foi aussi.
Ah, absolument, oui.
Maintenant, nous allons écouter une chanson de Natacha Saint-Pierre, choisie par Tatiana. Le titre, tu trouveras.
Et maintenant, je vous retrouve à la foire de l'Aréole. Je vous présente un texte, je vous présente plutôt une interview de Cécile Dugem de Cadillac, faite par moi.
Je suis avec Cécile du GEM de Cadillac. Cécile, vous travaillez au GEM de Cadillac et vous êtes éducatrice spécialisée. Pour nos auditeurs, pouvez-vous nous expliquer qui vous êtes ?
Bonjour, je suis Cécile Morillon, je suis éducatrice au GEM depuis 2015. Donc je travaille à la fois au GEM, le groupe d'entraide mutuelle, et au SAS, le service d'accompagnement social aux soins.
En quoi consiste un groupe d'entraide mutuelle ?
Alors le groupe d'entraide mutuelle, c'est une association de loi 1901. Notre association ici s'appelle Entracte.
Quel rapport entre le GEM et la psychiatrie ?
Donc le GEM, en fait, accueille toutes les personnes en situation de handicap psychique ou d'autres handicaps et qui ont envie de rompre l'isolement dans lequel ils sont et donc de se retrouver sur le principe de la libre adhésion.
Que proposez-vous aux usagers ?
Alors, dans les locaux, nous organisons des repas, c'est-à-dire que les adhérents organisent eux-mêmes des repas, il y a pas mal de jeux de société dans les temps d'accueil, il y a des ateliers aussi, il y a l'informatique, l'atelier couture, l'atelier plat emporté, il y a pas mal d'atelières plastiques aussi. Il y a des visites qui sont organisées. Les adhérents ont envie, par exemple, d'aller visiter un musée. On les aide à mettre en place le projet et partir visiter le musée.
De quel type d'atelier proposez-vous au GEM ?
Donc, comme je disais, en fonction en fait des désirs des adhérents, là par exemple dernièrement il y a un atelier plastique qui s'est monté parce que plusieurs adhérents avaient envie de pouvoir peindre ensemble. Donc l'atelier plastique, l'atelier couture, ça fait un peu plus longtemps qu'il existe où les personnes fabriquent des objets, de créent des objets et on participe même au marché de Noël avec cet atelier. Il y a un atelier informatique, un atelier gazette. Donc la gazette, c'est le petit journal qui est créé par les adhérents du GEM. Et l'atelier plat emporté avec notre éducatrice technique spécialisée qui aide les adhérents à créer des plats qu'ils peuvent acheter. Les autres adhérents peuvent aussi acheter ces plats.
Comment se passe l'inscription ?
Alors l'inscription, donc, c'est une adhésion sur l'année de 12 euros. Et donc les personnes sont libres, c'est vraiment une libre adhésion, c'est-à-dire qu'ils viennent quand ils veulent.
Une chose, quels sont l'investissement de l'association par rapport aux adhérents pour les repas, tout ça ?
L'association participe au niveau des frais, que ce soit pour des sorties, des séjours, des repas, à hauteur de 30% globalement.
Donc c'est très intéressant.
C'est plutôt intéressant, oui. Il y a aussi un bar associatif où il y a des boissons qui sont aussi à des prix imbattables.
Intéressant parce que partout, il n'y a pas de bar associatif.
Exactement.
Quels sont les ateliers que vous animez, vous ?
Alors moi, j'anime l'atelier art plastique depuis septembre. Et donc on peint ensemble, on dessine, on fait du collage. Je ne suis pas du tout prof d'art plastique, mais on est là surtout pour partager un moment de plaisir ensemble.
Moi qui viens au GEM, je peux avouer que vous allez faire une formation pour mieux nous enseigner tout ça.
Oui, tout à fait. Je vais aller à Paris la semaine prochaine pour faire une formation au niveau des ateliers art plastiques. Pour me donner un peu plus d'idées et pouvoir rendre cet atelier plus riche, plus attractif. Et j'espère que d'autres adhérents viendront participer aussi à cet atelier.
Faut-il une formation spéciale, puisque vous dites que vous allez faire un complément de formation, pour animer les ateliers ?
Non, pas particulièrement. On est donc une équipe de 6 éducateurs et en fonction de nos goûts, nos compétences, on vient animer l'un ou l'autre des ateliers en sachant que les adhérents aussi eux-mêmes peuvent animer un atelier. C'est pas seulement les encadrants qui peuvent animer les ateliers.
C'est un travail d'équipe.
C'est un travail d'équipe et plus globalement, c'est l'idée que chacun peut apporter ses compétences, même les adhérents et surtout les adhérents.
Quand vous suivez une formation, est-ce un choix professionnel ?
C'est-à-dire que c'est un choix personnel qui va pouvoir aussi enrichir mon travail professionnel.
Merci. Vous êtes éducatrice au GEM. Pouvez-vous nous parler des projets, comment ils sont réalisés ?
Alors, les projets viennent des adhérents, c'est-à-dire que on va aider les personnes. Par exemple, il y a quelques années, des adhérents voulaient partir au Maroc. Le projet s'est monté à partir de leur proposition. Et les éducateurs ont aidé à ce que le projet puisse se réaliser, puisqu'ils sont effectivement partis l'année dernière au Maroc.
Merci. Maintenant, pour nos auditeurs, en quelques mots, résumez-nous plutôt ce qui vous plairait pour qu'on vienne au GEM.
Alors, le GEM, c'est vraiment un lieu pour rompre la solitude. Donc, beaucoup de personnes viennent pour retrouver d'autres adhérents, faire des jeux, manger ensemble, vivre ensemble. C'est le côté collectif qui plaît, je pense, aux personnes qui viennent.
Merci. Par contre, une dernière question, c'est par rapport au SAS, hein, qui est complémentaire au GEM, d'après ce que j'ai compris. Pouvez-vous nous expliquer ça ?
Alors le SAS, c'est le service d'accompagnement social et aux soins, qui est effectivement dans les mêmes locaux et les mêmes éducateurs travaillent à la fois au GEM et au SAS. Et le SAS a une dimension non pas collective mais individuelle et permet aux personnes qui ont besoin d'une aide, soit au niveau de leur logement, au niveau des courses, au niveau donc de leur vie de tous les jours, d'être accompagnées pour vivre mieux. Pour vivre mieux, autonome. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Vous avez peut-être une dernière chose, une dédicace.
Merci à vous et bravo pour l'interview, pour vos questions.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Et nous retrouvons toujours à la foire de la Réole avec un texte, ou plutôt Corinne, qui nous fait l'actualité.
Et maintenant, les infos et la page culturelle. À la Réole, librairie La Folie en tête, vendredi 9 novembre à 19h. Rencontre avec l'auteur Michel Julien pour son dernier roman, L'île au tronc. À Langon, ouverture d'un GEM, un groupe d'entraide mutuelle, 67 cours du 14 juillet, mardi le 6 novembre de 15h à 18h. Pour en savoir plus, appelez l'association Entracte de Cadillac au 09 62 53 68 96 par mail entreactecadillac@gmail.com. Toujours à Langon, au Carme, vendredi 9 novembre à 20h30, spectacle de danse avec la compagnie Julien Lestel. Le Faun de Debussy, le Boléro de Ravel et le Sacre du Printemps de Stravinsky sont à l'honneur. Jeudi 15 novembre à 15h, J'étais vieux, spectacle musical gratuit proposé par la CARSAT Aquitaine, la MSA Aquitaine et la SSI. Et vendredi 30 novembre à 20h30, concert Fado avec Gisela Roao à Portes. À la Forge, vendredi 16 novembre à 20h30, L'ouragan vient de Carcassonne, comédie de Frédéric Boucher. Et samedi 17 novembre à 21h30, apéro concert avec Eddy Lagoyach qui présente son nouvel album Pullover. À Lormont, rue de Cavaille, dans les différentes unités du site des Gravières, jeudi 8 novembre à 14h30, vernissage de l'exposition Chantier Enchanté, organisé avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux en compagnie musicale du duo Bicinium Jean Goujon et Bernard Milon. À Cadillac, au Ciné-Club du Centre Hospitalier, jeudi 15 novembre à 14h30, les Blues Brothers. La programmation du Ciné-Lux, du 3 au 27 novembre, les films à l'affiche, Bohemian Rhapsody, Le Jeu, Yeti et compagnie, Mademoiselle de Jonquière, L'Amour flou, I Feel Good, Cold War, Dilili à Paris, Girl, Le Grand Bain, en liberté. Capharnaüm, la grande aventure de Nonon. Nos batailles, heureux comme Lazaro et les animaux fantastiques. Les séances spéciales, dimanche 4 novembre à 15h. Aïda, opéra de Giuseppe Verdi. Vendredi 9 novembre à 20h30, First Man, film, présentation précédée d'une intervention de Michel Védrenne, membre de l'Académie de l'air et de l'espace. Samedi 10 novembre à 18h, Les Proies, film documentaire en présence de la réalisatrice Marine Decomte. Mardi 20 novembre à 20h30, De chaque instant, film documentaire en présence du réalisateur Nicolas Philibert. Et dimanche 25 novembre à 15h, Un homme pressé, film Cinéma différence.
Eh bien oui, nous nous retrouvons à la foire de l'Aréole en direct. L'émission Pas d'affolement, nous voilà avec M. Raymond Vallier. Une dernière question. L'Aréole vient d'être labellisée ville d'art et d'histoire. Comment vous avez obtenu ce label ?
Par beaucoup de travail, voilà. Pendant plusieurs années. Il a fallu que nous démontrions que non seulement nous avions un beau patrimoine à l'Aréole avec de riches monuments classés, etc., mais aussi que nous avions la capacité de mettre en valeur tout ce patrimoine, non seulement ce patrimoine classé, mais aussi de travailler sur l'urbanisme du centre-ville et de façon à rendre nos rues agréables et de façon à donner envie aux gens de revenir habiter dans le centre ancien. Et par rapport à l'habitat dans le centre ancien, nous avons mis en place différents outils, comme par exemple le fait que nous luttons contre l'habitat indigne en particulier. Donc nous avons une commission qui inspecte les logements lorsqu'il y a des problèmes et qui peut se permettre de fermer des logements et d'obliger les propriétaires à faire des travaux de mise aux normes de façon à ce que l'habitat en centre-ville redevienne très, très agréable.
Merci, monsieur Vallier, de votre éloquence et de votre gentillesse.
Merci à vous, encore une fois.
Merci d'avoir accepté de venir nous répondre.
C'était un grand plaisir.
En conclusion, pris par le temps, j'adresse mes remerciements à monsieur Vallier, notre invité, pour la clarté de ses réponses.
Merci beaucoup. Monsieur.
Voilà, nous nous retrouvons au mois de novembre, le dernier jeudi du mois, pour Pas d'affolement, nous voilà entre 14h et 15h. Merci.
Merci.
Pas d'affolement.
Nous voilà.